Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Christelle Yessot.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette édition. À la une ce lundi matin, en visite en Côte d'Ivoire, le président libérien Joseph Boakai a été reçu en audience par son homologue ivoirien hier jeudi. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre les deux pays et la situation sécuritaire de la sous-région. 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme. À l'instar des institutions ivoiriennes, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme célèbre cette journée en mettant en avant la participation des femmes et des filles à la paix. Et sur le continent, l'armée française restera au Tchad, affirme l'envoyé de Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel. En toute fin d'édition, nous aurons la revue des titres avec Jean-Claude Comé, suivi de l'invité de la rédaction, avec Serge Digbaï, directeur régional de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Il sera question de l'exportation du maïs ivoirien au Canada. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu en audience hier jeudi au palais présidentiel d'Abidjan son homologue libérien Joseph Niouma Boakai. Leur entretien a porté sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Libéria ainsi que sur la situation sécuritaire de la sous-région. Alassane Ouattara.
Comme vous le savez, nos pays sont non seulement voisins, mais les relations sont anciennes, historiques et pleines d'amitié et de fraternité. Et cela, nous en sommes très fiers et très heureux. Président, je voudrais donc à cette occasion non seulement me féliciter de la qualité de ces relations, mais aussi vous réaffirmer notre volonté de consolider davantage cette coopération, notamment dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé est disposé à travailler étroitement et en bonne intelligence pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Et je souhaite que votre mandat se passe dans d'excellentes conditions et vous savez que vous pouvez compter sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria et surtout continuer notre travail en matière de sécurité et de défense afin de garantir la paix et la stabilité non seulement entre nos deux pays mais également en Afrique de l'Ouest.
Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Son homologue libérien s'est également exprimé au sortir de cette audience. Il s'est dit fier des performances de la Côte d'Ivoire. Il entend s'inspirer de ce pays frère pour développer le sien, notamment dans les secteurs de l'agriculture, en faisant par la suite un plaidoyer pour la fourniture totale d'énergie prévue dans le contrat d'achat d'octobre 2022. On écoute Joseph Boakai.
Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité, de l'agriculture. Excellence, sur la base des accords signés pour la livraison d'environ 50 mégawatts, au moment où je vous parle, nous ne recevons que la moitié. Avec la saison sèche, la rareté des pluies, nous savons qu'il y aura encore des difficultés. Nous sommes là pour faire surtout ce plaidoyer pour pouvoir avoir la capacité totale. Excellence, vous nous avez rendu tellement fiers avec vos performances économiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Nous sommes là pour apprendre de vous. Nous savons également que l'agriculture porte des fruits ici en Côte d'Ivoire, le cacao, l'huile de palme. Et nous pensons que nous pouvons apprendre de la technicité appliquée en Côte d'Ivoire pour avancer. Excellence, nous nous préoccupons de nos frontières, des renseignements qui nous donnent des informations régulièrement et nous pensons que nous pouvons les utiliser pour aider au bien-être de nos populations de façon régulière. Excellence, Monsieur le Président, le Libéria voudrait vous rassurer que, en aucun cas, vos frontières serviront de moyens ou de voies pour déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Joseph Boakai, président de la République du Libéria, au micro de Linda Ballier. Nous nous intéressons à présent à l'actualité au sein du PDCI-RDA. Le dévoilement du nouvel organigramme du parti a engendré des incompréhensions entre Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon. Pour Geoffroy Julien Kouao, analyste politique, le nouveau président du PDCI, à travers ce nouvel organigramme, veut imprimer sa marque en insufflant du sang neuf. S'agissant de Jean-Louis Billon, Tidiane Thiam doit user de beaucoup de tact pour résoudre cette équation. Écoutons à cet effet Geoffroy Julien Kouao.
Une fois élu, on attendait que Tidiane Thiam prenne ses marques et impose sa signature en termes de réorganisation et de gouvernance du PDCI-RDA. Et c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de nouveaux visages juveniles. M. Tidiane Thiam est en train de s'entourer de personnalités qui connaissent très bien la maison PDCI. Si on regarde bien l'organigramme présenté, la mise en place des hauts représentants du président du parti dans les 14 districts et au niveau de la diaspora, montre très bien que Tidiane Thiam veut donner un nouveau souffle au PDCI, surtout en termes de mobilisation des militants.
Mais comment résoudre l'équation Jean-Louis Billon?
Monsieur Billon l'a clairement signifié. Il n'est pas preneur du poste qui lui a été confié. C'est-à-dire qu'il faut certainement revoir la méthode d'approche de Tidiane Thiam. Quand on lit bien la correspondance de Monsieur Billon, il affirme n'avoir pas été consulté pour la nomination le concernant. Mais attention, n'oublions pas que Monsieur Billon a des ambitions présidentielles. D'abord, ses ambitions pour diriger le PDCI ont toujours été affichées. Dans cette optique-là, il apparaît comme un adversaire à M. Tidiane Thiam.
À l'instant, Geoffroy Julien Kouao, analyste politique. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre les droits de la femme à travers la journée internationale qui lui est consacrée. En Côte d'Ivoire, le thème choisi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour cette année est « Investir en faveur du rôle mobilisateur et de la participation des femmes et des filles pour la paix ». Nous vous proposons à cet effet un extrait de l'allocution officielle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
We celebrate women and girls around the world.
À cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. À cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne de ce combat. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité.
Together, let's take urgent action to make it a reality, and I thank you.
Vous venez d'écouter Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, des propos traduits pour nous par Potin Abietri. Après la découverte des poissons morts dans la baie du quartier ancien Kumasi, des prélèvements ont été effectués et une enquête est en cours pour situer l'origine de ce problème écologique. Pendant ce temps, les carpes et anguilles en putréfaction ont commencé à être collectées par l'expertise du CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution. Des détails dans ce reportage de Ghislain Koulibaly.
Quand c'est comme cela, c'est pas joli à voir.
Sekou est un jeune du quartier. Il nous présente ici quelques poissons morts flottant sur l'eau au rythme des petites vagues.
C'est la première fois qu'on voit ça.
Sekou fait partie des volontaires qui aident à dégager ces débris halieutiques en état de décomposition. Il y a aussi Régis, fabricant et mécanicien de bateaux exerçant sur la rive. Il nous explique comment il contribue au nettoyage de ce lieu.
Avec des gants, nous les ramassons. Voilà. Il y a Sia Paul qui est là. Donc quand nous ramassons, nous le déposons. Eux, maintenant, ils vont traiter ça, ils vont jeter ailleurs.
Les agents du centre anti-pollution présents n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro. Plusieurs structures étatiques sont impliquées dans cette phase d'assainissement. C'est le cas de la direction du service vétérinaire. Le chef de service, Dr Toba Cyril, nous explique la démarche.
Ce que nous faisons, c'est d'assainir le site en ramassant tous les poissons qui flottent sur l'eau là, aller les détruire dans une zone sécurisée. Et également sensibiliser les riverains.
Et pour évaluer les conséquences d'un tel phénomène sur l'homme, un contrôle radiologique de l'environnement est aussi mené. Didier Couan, de l'autorité de radioprotection.
Nous effectuons des mesures brutes de radioactivité. Ce que nous collectons comme échantillon, c'est pour aller effectuer des mesures fines au niveau du laboratoire. Et c'est à la suite de ces mesures fines-là que nous pourrons dire s'il y a eu contamination ou pas.
Les résultats de ces différents tests et prélèvements aideront sûrement à faire la lumière sur les causes de ce problème environnemental.
Du côté du monde sportif, la gestion des infrastructures sportives de l'État au centre des préoccupations de l'Office national des sports, ONS, qui a organisé à cet effet un atelier de réflexion autour du thème « Stratégie de gestion des infrastructures civiles de l'État et de gouvernance de l'ONS face aux nouveaux défis ». Cet atelier de réflexion, ouvert en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, Nguessan Alfred, s'est tenu du 6 au 7 mars. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Sur l'objectif de cet atelier qui réunit plusieurs personnalités issues du monde sportif, des entreprises, des ministères et de la primature, le directeur général de l'Office national des sports donne des explications.
Le tout est de parvenir à une approche qui puisse permettre à l'État de garder ses infrastructures en bon état et surtout de pouvoir les exploiter efficacement. Les réflexions nous permettront de déterminer un certain nombre de pistes sur lesquelles l'Office national des sports va travailler.
Pour ceux qui veulent la création d'une nouvelle structure pour la gestion des infrastructures sportives liées à la CAN 2023, Ousmane Gbané, directeur de l'ONS, répond.
Toutes les infrastructures de la CAN ont été construites sous la houlette de l'Office national des sports et ces infrastructures jusqu'à ce jour et pendant la CAN ont été gérées avec beaucoup de rigueur par l'Office national des sports. Il est clair aussi que l'environnement est mouvant, que le contexte est nouveau et donc il y a certainement de nouveaux paradigmes qu'il faut adopter.
Outre les projets de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives qui sont en cours de réalisation, tels que les agoras et l'aisance aquatique, l'ONS gère à ce jour plus d'une cinquantaine d'infrastructures sportives de l'État.
Hors de nos frontières, l'armée française restera au Tchad, a affirmé jeudi à N'Djamena l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, faisant part au passage de l'admiration de la France au président et chef de la junte au pouvoir depuis 3 ans, le général Mahama Idriss Déby Itno, pour son processus de transition. Nous en arrivons à présent à la revue des titres de la presse ivoirienne. Pour cet exercice, nous retrouvons Jean-Claude Comé, à qui nous disons bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à vous, Christelle Yesso. Vous êtes une femme et selon Léon Tolstoï, c'est un célèbre écrivain russe des années 1890, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. C'est une pensée en tout cas qui indique bien la place que doit avoir la femme dans la société et c'est ce combat que mènent les Nations Unies à travers la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une journée, explique Naseneba Touré, la ministre de la Femme, qui permet à la Côte d'Ivoire de réfléchir sur comment lutter contre la pauvreté des femmes. Et c'est donc en une, deux, Soir Info, l'expression estime déjà que le pays a réalisé de grandes avancées en matière des droits des femmes. Le rassemblement abonde dans ce sens en affirmant que la Côte d'Ivoire est un exemple dans la sous-région. Son confrère, le sursaut qui ne partage pas entièrement ce point de vue, estime que la femme ivoirienne se cherche toujours en ce qui concerne ses droits. Des vérités derrière la célébration du 8 mars affiche donc le journal. Pendant ce temps, le président du FPI, Afi Nguessan, exprime sa solidarité aux femmes déguerpies à cette occasion de la Journée internationale de la femme, rapporte Notre Voix. Elle est une femme leader de parti politique en Côte d'Ivoire. Elle a échangé hier avec son homologue masculin du PDCI. Il s'agit de Simone Gbagbo, leader du parti MGC. comme le révèle l'Inter qui relaie les propos de l'ex-première dame. On a commencé à échanger, on va faire de bonnes choses. Thiam et Simone Gbagbo se sont parlé hier, annoncent aussi le nouveau réveil qui parle également de la passation des charges au secrétariat exécutif du PDC entre Emo Sylvestre et Maurice Kakou-Gikawe, qui selon Fraternité Matin a posé à l'occasion un regard sur les décisions de Tidiane Thiam, le président de son parti. Le journal La Capitaux Publique s'intéresse aussi et surtout aux audiences hier du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a échangé avec le PDG du groupe italien Eni. Et le journal annonce encore une grande découverte de gaz et de pétrole. Un gisement de 1 à 1,15 milliard de barils découvert, précise le Patriote et le Matin, qui rapportent tous qu'à sa seconde audience, le président de la République a échangé avec son homologue libérien, Joseph Boakai, pour une coopération plus renforcée. Il a été question de paix et de stabilité dans la sous-région, indiquent ces journaux. C'est pourquoi, en une de l'essor, le président libérien déclare « Nos frontières ne serviront pas à déstabiliser la Côte d'Ivoire ». Une autre rencontre dont se fait écho donc certains journaux, c'est l'échange hier entre le gouverneur du district d'Abidjan, Séba Kongo, et les chefs ébriers. Et selon l'intelligent d'Abidjan, de bonnes annonces ont été faites. Merci.
Merci Jean-Claude Koumé pour cette revue des titres qu'on aura l'occasion de suivre à nouveau au cours de l'édition de 8h. Et maintenant, place à l'invité de la rédaction. Ce matin, nous recevons Serge Digbayi, directeur régional de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Avec lui, il sera question de l'exportation du maïs ivoirien au Canada. Il est interrogé par Bakary Touré-Labas.
Monsieur le directeur régional de l'OCPV, bonjour.
Bonjour, monsieur Abbas.
Dans votre sphère d'intervention, la culture du regroupement fait défaut, selon qu'on soit dans la région du Kabadougou, même du Folon. Et aujourd'hui, sans regroupement, pas de financement. En tout cas, pas de financement émanant de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, comment inverser la tendance et comment inculquer la valeur d'union et de regroupement au Kabadougouka?
Nous avons commencé. Vous savez, quand on a étudié un peu les causes profondes qui amènent ces acteurs à ne pas se mettre en groupe, il y a la question de confiance. Et les populations ici, ils n'ont pas la culture des GVC, encore moins des sociétés coopératives. C'est des groupes d'amis, des groupes de familles. Mais il faut transformer ces organisations informelles-là en sociétés coopératives. Il y a ce premier niveau. Le second niveau, c'est qu'il y a des coopératives qui sont créées et elles sont adossées à la personne d'un seul individu. Il faut leur dire qu'une coopérative, là, n'est pas l'affaire d'une personne. Alors nous allons descendre au plus bas pour communiquer autour de ces valeurs-là.
Ben, au moment où ces problèmes sont posés, il y a qu'aujourd'hui, on vient de vous passer une commande de 200 000 tonnes de maïs à produire chaque mois. Une commande émanant du Canada. Alors est-ce possible de pouvoir y faire face?
Face à cette demande-là, la question la plus fondamentale à laquelle il faut trouver réponse immédiatement, c'est d'identifier les acteurs. Qui sont-ils? Est-ce les citoyens lambda dispersés à travers tout le pays ou des structures organisées, structurées et qui ont un objectif précis en termes de production et de commercialisation. Et je pense que cette option-là est la plus importante. Identifier ce qu'ils peuvent produire et évaluer également les capacités de production. Et en pensant de ça, on pourrait projeter. Même si on ne peut pas satisfaire 200 000 tonnes par mois, on pourrait au moins donner du travail à ces acteurs-là. Et qui dit travailler, ça veut dire que créer de la richesse pour soi-même et pour sa communauté.
Alors, jusqu'à quand la Côte d'Ivoire, dont le succès repose sur l'agriculture, peut-elle s'autosuffire en matière d'ivoirien? Alors, je vous pose la question parce que la crise russo-ukrainienne s'est ressentie dans nos assiettes ici en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, nous nous autosuffisons en matière de produits ivoiriens. Le seul hic, c'est la maîtrise de la production pendant les périodes de disette. Donc, si nous maîtrisons l'eau à travers l'irrigation, nous pensons résoudre le problème du manque de certains produits dans certaines saisons. Il y a la question liée à la pression des commerçants des pays limitrophes sur nos produits locaux. Et là, l'État a pris des décisions, notamment l'autorisation préalable à l'exportation. Nos autorités ont pris également une mesure suspensive de l'exportation du riz local pour pouvoir vraiment réduire au maximum la fuite des produits que nous produisons ici vers les pays limitrophes.
Malgré ces dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a que des produits, notamment le riz, le maïs et le carburant, et continuent de passer de l'autre côté de la frontière au vu et au su de tous. Alors, à quand donc la fin de cette hémorragie?
Au niveau local, nous sommes en train de travailler avec nos autorités sur cette question et nous pensons que ça résolu d'ici peu.
Le projet Soja vient d'être relancé dans le district autonome du Dinguélé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plusieurs milliards. Le hic est que lors de la présente campagne, il n'y a pas eu de bâtisse pour les récoltes. Et en désespoir de cause, les récoltes aujourd'hui se font à la main. Alors, ma préoccupation est la suivante. Peut-on produire à grande échelle sans la mécanisation?
Non. Nous ne sommes plus à l'époque des résultats rudimentaires. Le cas du soja que vous venez d'évoquer, il s'agit de la question de la récolte puis du conditionnement. Là, c'est une question que nous avons déjà adressée. Nous pensons que qui les droits va pouvoir répondre. Mais comme ce sont des activités ponctuelles, vous comprenez que c'est quand on arrive à la saison de la récolte que la problématique se pose. Et pourtant, cela devait donner lieu à une rencontre des acteurs pour réfléchir depuis les semis jusqu'à la récolte, comment s'y prendre. C'est la même question que nous nous posons, que les acteurs se posent, même quand il s'agit de pouvoir faire la commercialisation. Les producteurs produisent en masse. Et c'est quand ils arrivent à la récolte qu'ils viennent voir le CPV pour qu'on les trouble les débouchés. Alors qu'il faille bien structurer la démarche depuis les semis, solliciter le CPV.
Ma dernière préoccupation est relative, elle, au projet des 40 marchés de gros initiés depuis un an. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce programme?
Nous sommes à la fin des finitions et nous pensons que d'ici peu, on pourra inaugurer l'ensemble des marchés de proximité.
Monsieur Serge Bailly, directeur régional de l'ECPV pour les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était donc l'invité de la rédaction de ce jour, Serge Digbailly, directeur régional de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Il intervenait sur la question de l'exportation du maïs au Canada en répondant aux questions de Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans le Kabadougou. Et c'est ici que prend fin cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. En visite en Côte d'Ivoire, le président libérien Joseph Boakai a été reçu en audience par son homologue ivoirien hier jeudi. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre les deux pays et la situation sécuritaire dans la sous-région. 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme célèbre cette journée en mettant en avant la participation des femmes à la paix. Et dans l'actualité. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.